مرحبا بكم الكل، مازال مواصلين مع ضيفكم السيد دومينيك دو فيبان. il y a quelques instants vous évoquiez ce que on peut faire ensemble. Vous parlez de l'Europe, de la France, de l'Europe et de voisins comme la Tunisie. Ben, justement, demain, si vous êtes président de la France, enfin je sais, même si je compte poser la question tout à l'heure, je commence à préparer ma question finale. Je sais si vous présentez ou pas, mais je pense que c'est les secrets de Polichinelle, mais c'est pas ça le plus important. Demain, comment vous voyez l'avenir de l'Europe? Comment vous voyez l'avenir de la France? Comment vous voyez l'avenir des relations entre la France et la Tunisie si vous êtes président de la France? Et sinon, aujourd'hui, c'est parti pour être comment, justement, la France, l'Europe et peut-être ses
Nous
relations
sommes
tuniso-françaises?
confrontés à de multiples défis, et des défis qui sont à bien des égards existentiels, parce que notre avenir ne sera pas le même selon le chemin que nous choisissons. Défendre la souveraineté nationale française et la souveraineté européenne, c'est pour moi un impératif, car ce serait un destin tout à fait différent si nous décidions de passer sous les fourches caudines de tel ou tel empire, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. Donc, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous ne pouvons pas renoncer, sauf à sacrifier ce que nous sommes, sacrifier notre identité à travers l'histoire, sacrifier aussi nos valeurs, la démocratie auxquelles nous sommes attachés, et le passage à une démocratie illibérale serait une trahison historique pour la France comme pour l'Europe. Est-ce que les Européens veulent vivre sous le joug de l'illibéralisme, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui en Hongrie? Je ne le crois pas. Donc cela mérite, et cela sera dans les prochaines années, une très grande bataille. Et je pense que 2027, le rendez-vous des élections présidentielles françaises, sera une bataille importante pour la France, mais aussi pour toute l'Europe. Et si les forces populistes, si l'extrême droite devait arriver au pouvoir en France, cela marquerait le risque d'un basculement de l'ensemble des pays européens. Donc ce sont des enjeux
Quel est le risque? Quel est ce risque de
géopolitiques.
basculement,
Le
justement?
risque, il est tout à coup de voir
Que beaucoup de gens espèrent, hein, il faut le dire. Enfin, il y a des gens
y a
qui disent.
aujourd'hui 30% de la population en France qui annonce vouloir voter pour le Rassemblement national, c'est le risque de céder à un pouvoir identitaire, où l'identité deviendrait l'élément de référence. Nous sommes une république. Nous nous déterminons par rapport à des principes et par rapport à des valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité. Nous ne nous déterminons pas par rapport à une origine, par rapport à une confession religieuse ou autre. Et c'est le risque que nous aurions alors de tout organiser au sein de notre société, en France ou en Europe, en termes d'identité, avec des Français à différentes vitesses, selon qu'on est national, binational, une hiérarchie de valeurs qui serait très différente de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La préférence nationale, la priorité nationale viendrait introduire un obstacle, un prisme à l'opposé de ce qu'est l'esprit républicain et l'esprit de l'humanisme européen. Donc je pense que cette bataille, c'est une bataille essentielle et que nous devons avoir conscience des risques qui sont courus. Quand nous voyons les États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une administration Trump qui mène la bataille sur le front de la science, avec un véritable obscurantisme contre les universités et les libertés universitaires, qui mène la bataille contre les administrations, contre tous les États qui ne pensent pas comme eux, les États démocrates, y compris la bataille du découpage électoral, contre les contre-pouvoirs, contre la justice, contre les médias. C'est véritablement un changement de système politique. Ma conviction, ma détermination, c'est à tout faire pour que et la France et l'Europe puissent être fidèles à leur histoire et à leurs valeurs. Ne pas renier ce que nous sommes. Vous savez, pour que la France ait pu se constituer au fil des siècles, ce sont de nombreux combats qui ont dû être livrés. Et imaginez que tout à coup, nous puissions devenir une puissance ou des puissances qui soient sous la férule, sous la botte de grands empires étrangers comme les États-Unis en matière politique et stratégique, comme la Russie en matière militaire, comme la Chine en matière commerciale, quand on voit à quel point nombre de produits chinois sont déversés sur le territoire européen, faute de pouvoir entrer aux États-Unis, eh bien ils rentrent en Europe. Nous voyons que l'enjeu de souveraineté, c'est un des grands enjeux du monde d'aujourd'hui.
Et c'est pour toutes ces raisons que voulez-vous présenter ?
Alors, c'est pour toutes ces raisons, parce que je vois que la classe politique...
J'avais pas terminé ma question, comme ça, il n'y a pas d'amalgame, vous l'avez deviné. Que voulez-vous présenter aux élections présidentielles ?
C'est pour toutes ces raisons que je veux participer à ce combat, contribuer à défendre des idées, des programmes, et contribuer à faire en sorte que la France puisse rester fidèle à elle-même sur trois fronts. La France, c'est une nation qui s'est constituée à partir d'un État qui a précédé la nation. Donc défendre l'État. Aujourd'hui, nous avons un État qui est en grande partie faible, impuissant. Redonner à l'État sa capacité à produire des actions, des normes qui permettent à notre pays d'aller de l'avant, ça veut dire être capable de mettre en place des politiques publiques efficaces. Aujourd'hui, un certain nombre de nos compatriotes se plaignent d'une école qui n'est pas suffisamment capable de répondre aux besoins, d'un hôpital qui ne répond pas non plus comme il devrait, de services publics qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, redonner à l'État sa vocation à servir nos concitoyens. Deuxièmement, et deuxième impératif, au-delà de l'État, la nation. Notre nation est divisée. Les Français ont tendance à se regarder en chien de faïence et la division, c'est un affaiblissement considérable pour une nation. Donc retrouver l'esprit de rassemblement, ça veut dire être capable de retrouver la définition d'un intérêt général. Vous voyez, c'est un terme qui a disparu du vocable politique, l'intérêt général. Choisir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et puis il y a un troisième enjeu, me semble-t-il, c'est celui de la République. Les grandes valeurs de la République, la laïcité, la liberté, l'égalité, l'égalité des chances. Faire en sorte que ce ne soient pas seulement des mots au fronton des palais de la République, mais aussi des mots qui ont une traduction vivante. Et l'on voit aujourd'hui que la laïcité a changé de nature dans le débat politique. Pour beaucoup, la laïcité, c'est un outil de combat contre certaines catégories, contre certaines populations, un outil qui divise et qui stigmatise. Je crois qu'il faut en rester à l'esprit républicain. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et c'est la liberté de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire. Il faut définir, bien sûr, dans l'espace public un certain nombre de règles et il faut les respecter tous collectivement, mais éviter de rentrer dans la logique du soupçon, dans la logique de la stigmatisation qui, au nom de certaines idées politiques, au nom de certaines idéologies, eh bien, mène le combat contre telle et telle catégorie.
Alors, aujourd'hui, vous êtes régulièrement cité comme une figure possible pour l'avenir politique français. Je ne sais pas si c'est une hypothèse réelle ou un refrain médiatique. Je vous laisserai y répondre. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que la France aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore besoin de vision gaullienne dans un monde qui a changé, vous le disiez vous-même, qui est vraiment, alors là, le moins qu'on puisse dire, post-gaullien. Donc, on est un petit peu loin de tout cela. C'est vrai. Et vous êtes fier, certainement, de cet héritage.
Bien sûr, avant
cette interview, j'ai quelques amis également qui me disaient il représente cet héritage. Voilà, est-ce qu'il y a de la place encore pour cet héritage?
Oui, je pense que c'est non seulement une place qui existe, mais c'est une place qui doit être défendue. Le gaullisme, c'est le refus de la fatalité. C'est moins une doctrine politique qu'un certain nombre de principes et une exigence. Essayer de donner le meilleur de soi-même, essayer de défendre sa souveraineté, sa liberté, une dignité que l'on veut partager. Et c'est cette exigence, cette logique d'exigence qui mérite d'être défendue. Alors évidemment, c'est plus facile d'accepter le diktat américain. C'est plus facile d'accepter la fatalité de certaines situations. Je crois qu'au contraire, l'exigence de dignité, l'exigence de liberté, l'exigence de souveraineté fait que l'on doit accepter de se battre, de résister. C'est pour cela que j'ai intitulé mon dernier ouvrage « Le pouvoir de dire non ». Parce que, avant toute chose, il faut prendre conscience de ce que l'on est et de qui on veut être. Et je pense que avant toute chose, il faut donc dire non à un certain nombre d'alternatives, à un certain nombre de propositions, à un certain nombre de fatalités, avant de pouvoir affirmer et de faire le choix de l'avenir.
Mais aujourd'hui, en fait, voilà, on parle de gaullisme, humanisme, enfin, cette notion d'humanisme dans le parti que vous avez fondé, vous parlez beaucoup de valeurs. Aujourd'hui, ça signifie quoi, en fait, réellement, d'être gaulliste dans un monde, je repose ma question un petit peu différemment, sans un monde qui n'est plus celui de Gaulle, en fait. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le général de Gaulle, qui a dû penser et agir dans un monde de blocs, dans un monde où la France, l'Europe étaient menacées de servilité face à l'agression nazie, face à la barbarie nazie, face également à la tentation des États-Unis d'accroître et d'empiéter toujours un peu plus sur la souveraineté européenne. Eh bien, le général de Gaulle a dû résister, réagir, inventer un certain nombre de stratégies et de politiques. C'est pour cela qu'il est sorti, par exemple, de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. C'est pour cela qu'il a décidé de se battre en 1965 contre l'hégémonie du dollar et a dénoncé le privilège exorbitant du dollar. C'est pour cela que à Phnom Penh, il a dénoncé la politique américaine au Vietnam. C'est une conscience en action, c'est une exigence d'indépendance et de liberté. C'est la capacité non seulement à penser le monde autrement, mais à penser contre soi-même, à ne pas céder à la facilité. Je crois qu'on est dans un monde qui est complexe, qui est difficile, qui est exigeant, et que c'est en permanence le chemin de la difficulté qu'il faut choisir, le chemin de l'exigence, si l'on veut être tout simplement fidèle à une histoire. Et être capable de défendre la dignité des personnes, la dignité des nations, être capable de défendre la justice au plan international, on le voit avec le drame des guerres au Proche-Orient, eh bien, c'est ce qui nous permet d'avancer ensemble. Le droit et la justice. C'est ça qui permet d'assurer le respect entre les peuples. C'est ça qui permet d'assurer la dignité des peuples et des personnes. Vous voyez, pour un certain nombre de gens, il est plus agréable aujourd'hui de parler d'économie, de parler d'argent. Je crois que dans un monde comme le nôtre, dangereux, où les risques sont multiples, il ne faut jamais perdre de vue ce qui est le plus important dans nos communautés humaines. C'est le prix de ce qui fait notre indépendance, nos libertés, nos fiertés. Et ça justifie un combat. On a tendance parfois à penser que tous ces combats ne valent plus la peine d'être livrés et que chacun doit de son côté essayer de s'en tirer au mieux. Ça, c'est la loi de la jungle. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'une société organisée, une société qui respecte des règles avec des garde-fous, une société qui vit selon une règle éthique, qui ne donne pas des leçons au monde entier, mais qui d'abord se les impose à soi-même. C'est une société qui a plus d'avenir qu'une société qui cède à la facilité des raccourcis et des réponses rapides.
Et aujourd'hui, si vous étiez président aujourd'hui, comment vous auriez répondu à toutes ces déclarations, récentes déclarations de Trump envers la France, envers l'Europe? Vous auriez fait quoi? Parce que là, depuis tout à l'heure, enfin, quand j'ai parlé de gaullisme, je me pose la question, est-ce une boussole aujourd'hui ou est-ce que c'est plutôt un héritage plutôt symbolique aujourd'hui? Donc, mais là, vous expliquez depuis tout à l'heure et je ne pouvais pas m'empêcher d'essayer d'imaginer.
Mais vous avez raison, il faut une traduction géopolitique dans le monde aujourd'hui. Et vous avez raison. Et être gaulliste aujourd'hui, ça ne peut pas passer uniquement par la satisfaction de se dresser tout seul pour mener le combat tout seul. Aujourd'hui, si l'on veut défendre les valeurs dont j'ai parlé, qui sont les grandes valeurs du gaullisme, il faut rechercher une unité entre les États de l'Union européenne, les États amis comme le Maghreb ou comme les pays africains. Et c'est de l'unité, de la capacité à peser que peut sortir notre capacité à défendre nos valeurs. Donc cette unité, cette cohésion entre pays amis et solidaires qui partagent les mêmes valeurs, elle est indispensable. Le combat ne peut pas être solidaire. Nous l'avons vu et dit, face à des grands empires, il faut peser. Et nous ne pesons pas suffisamment si nous nous battons chacun dans notre coin. Et c'est pour cela qu'une politique de voisinage entre l'Europe, le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient, elle a l'immense mérite de nous ouvrir la possibilité de peser davantage. Il y a deux grands ensembles qui sont les enjeux du monde d'aujourd'hui et qui risquent d'être les variables d'ajustement du jeu des empires entre la Chine et les États-Unis. La première variable, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe se soumettra à la règle américaine ou d'autres empires, ou est-ce que l'Europe réussira à exister par elle-même, dans la fidélité à ce qu'elle est? Si elle existe par elle-même, elle permettra un monde plus équilibré. Mais l'Europe ne peut pas exister par elle-même sans faire une alliance avec le Sud global. Et c'est la deuxième zone géographique qui pèse dans le monde et qui est aujourd'hui en permanence écartelée entre la Chine et les États-Unis. Eh bien, ce que je souhaite, c'est que l'Europe et le Sud global unissent leurs destins et soient capables de travailler ensemble, à commencer dans le Sud global, par ces pays qui font partie du même voisinage. Et j'ai cité l'Europe, le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient, parce qu'ensemble, nous pouvons compter davantage. Prenons la question palestinienne. Il est évident que si nous unissons nos forces, nous pouvons peser pour que la Palestine puisse voir effectivement le jour. Nous pouvons peser pour que le Moyen-Orient soit capable de cicatriser ses blessures, qu'il s'agisse du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la question du nucléaire iranien. Nous pouvons faire en sorte que les difficultés qui sont devant nous dans une unité du Maghreb arabe puissent aussi être réglées. C'est donc la capacité à regarder l'avenir en valorisant nos contributions respectives.
Alors, si je vous comprends bien, aujourd'hui, pour vous, on ne peut pas construire durablement, en tout cas, un ordre politique et économique sans valeur partagée. Et l'absence de sens aujourd'hui, qui est la principale peut-être crise de nos sociétés, en tout cas, si j'ai encore bien saisi ce que vous essayez de partager avec nous. Mais alors, ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'on peut encore, justement, du coup, parler d'humanisme, parler en politique, parler de dans un monde qui est marqué par la brutalisation des rapports internationaux? Est-ce qu'on peut, du coup, parler de valeurs, des valeurs que vous êtes en train de prôner, et une vision, des valeurs, à l'heure où tout semble être ramené à des équations budgétaires? Vous attendiez peut-être pas à la question budgétaire, mais parce qu'on parle beaucoup de politique et souvent les citoyens sont parfois déçus des politiques, mais parce qu'ils sont confrontés à la réalité de la gestion du quotidien d'appel.
La réduction des rapports humains à des équations simplistes, qu'elles soient financières, qu'elles soient numériques. Est-ce qu'on peut ramener une vie à quelques données qui seraient vendues à travers les plateformes numériques? On ne peut pas réduire une vie à ça. Nous sommes tous faits de chair, de sang et de rêve. Il y a en nous tous une aspiration. Il y a la volonté d'une autre vie, d'une vie meilleure, pour nous et pour nos enfants. L'un des grands drames que connaît l'Europe aujourd'hui, c'est que à la génération de nos grands-parents qui ont défendu le territoire européen et les libertés européennes dans la guerre, à la génération de mes parents qui ont reconstruit l'Europe après la guerre, eh bien, a répondu ma génération, qui laisse malheureusement une double dette à ses enfants. Une dette écologique, une planète qui est aujourd'hui confrontée à la rareté et qui souffre, et une dette financière immense, qui réduit considérablement nos capacités. Et donc, nous devons penser aussi en termes de relations humaines, en termes de culture. L'homme a besoin de pain, mais il a aussi besoin de nourriture intellectuelle, de nourriture spirituelle. Et c'est là où le numérique est en train de plus en plus de réduire notre humanité. À force de scroller sur Instagram ou sur TikTok, notre temps d'attention, c'est quoi? 7, 8 secondes. Nos enfants ne sont plus capables de lire un livre et de rester plusieurs heures à lire un livre. Leur attention, c'est 7, 10 secondes. C'est dire que notre intelligence, notre cerveau change. Et nous savons tous, la fonction crée l'organe. Qu'est-ce que ça donnera pour nos sociétés dans 5 ans, dans 10 ans? Donc, nous avons aussi à prendre en compte l'aspiration de chacun. Et à quoi nous aspirons tous? à la liberté, au respect, à la dignité. Cette reconnaissance, eh bien, entre les deux rives de la Méditerranée, nous devons avancer ensemble pour partager ces valeurs. Et je pense qu'une société, une nation, elle est plus forte quand elle est capable de faire confiance à ses enfants. La jeunesse, elle a des aspirations, elle veut vivre, elle veut pouvoir exprimer sa diversité et exprimer ses aspirations. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut recréer de la confiance, recréer un horizon commun, un horizon partagé, là où on voit entre les deux rives de la Méditerranée que les peurs, eh bien, sont en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un certain nombre de chaînes de télévision, on vous parle à longueur de journée d'immigration, on vous parle de grand trafic, on vous parle de peur de ce qui se passe là-bas et de crainte que cela vienne ici. Il faut sortir de ces logiques pour être capable de regagner de la confiance, du respect et de la dignité.
Alors, j'attaque une petite série de « si vous étiez, vous direz, vous ferez ». Alors, si vous étiez président de la France, vous direz quoi à Trump en réponse à toutes ces dernières déclarations ? Si vous étiez président de la France, vous direz quoi à Zelensky ? Vous direz quoi à l'Europe ? Et vous direz quoi à Poutine qui, selon ce qu'on dit, pense beaucoup de bien de vous ? Voilà. Bon.
Alors, à Donald Trump... Travaillons ensemble et évitons de faire les réponses et les questions. Il faut que chacun soit capable d'apporter sa part de contribution et aucune puissance ne peut dicter l'organisation du monde, aucune puissance ne peut régler seule les problèmes du monde. Nous sommes plus forts à plusieurs. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. À Zelensky, le courage d'avancer. Il a pris une décision très importante. Il a accepté que des élections aient eu lieu, alors même que son pays est en guerre. En réponse à Donald Trump, qu'il a en quelque sorte sommé, eh bien, il prend le risque d'aller vers des élections. C'est-à-dire qu'il efface son destin individuel devant l'intérêt de son pays. Et je crois qu'il faut savoir saluer le courage quand on l'observe comme cela. Le troisième, c'était...
Il y en a d'autres. Vous direz quoi à l'Europe ? Vous direz quoi à Poutine ? Et vous direz quoi à la Chine ?
L'Europe, relevez-vous. Prenez conscience de vos devoirs, devant l'histoire, devant les peuples, et soyez à la hauteur des circonstances.
Alors, vous direz quoi à la Chine ?
À la Chine, on ne peut pas réussir tout seul. On ne peut pas, parce qu'on est le premier dans un certain nombre de technologies, et déverser ces technologies sans regarder la situation des pays. Les Chinois sont des passionnés du win-win, le gagnant-gagnant. Eh bien, faisons en sorte que les stratégies économiques et commerciales soient gagnantes-gagnantes pour tout le monde. Faisons des partenariats, faisons en sorte que des entreprises chinoises puissent créer des emplois en Europe. Faisons en sorte que le bénéfice pour nos économies soit mutuel et pas uniquement d'un seul côté.
Vous direz quoi à Poutine ? Qui, selon certaines sources, pense beaucoup de bien de vous. Enfin, je ne sais pas si vous confirmez.
Évitons. L'ivresse de la puissance et du pouvoir. C'est ce que j'ai dit à l'administration Bush,
à l'époque.
Désireuse d'intervenir en Irak. C'est ce que je dis aujourd'hui à la Russie. La guerre n'est jamais la solution. Vous savez, en Europe et en France, on a des leçons à tirer. Napoléon avait construit son régime, construit sa puissance sur la guerre. Et puis, de guerre en guerre, il est allé trop loin. Guerre en Espagne, guerre en Russie. Et que s'est-il passé ? Au bout du compte, son régime est tombé. Waterloo et l'effondrement de l'Empire. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas toujours chercher à aller trop loin. Le pouvoir ne saurait se réduire à la quête de la puissance. Le pouvoir, c'est aussi de regarder les devoirs que l'on a vis-à-vis de son peuple. Le peuple russe souffre sur le plan économique, il souffre sur le plan social et il souffre physiquement de voir la perte de ses enfants dans des guerres stupide et stérile.
Vous direz quoi à l'Afrique ?
Oser, avancer. Moi, je suis très fier. Moi, je suis né sur le continent africain.
Tout à fait.
Je suis fier de ses racines et je suis convaincu de l'avenir de l'Afrique. L'Afrique a beaucoup à nous apprendre. Du point de vue culturel, du point de vue de l'optimisme, de l'enthousiasme, de la conception du temps, la capacité à être heureux ici et maintenant, l'humour, le partage, la capacité à dialoguer La palabre africaine, vous savez, on en aurait bien besoin dans le monde d'aujourd'hui qui vit à coups de diktats, qui n'est plus capable d'écouter l'autre. Donc, nous avons beaucoup de leçons de civilisation à retenir et à apprendre de l'Afrique. Donc, sachons nous retrouver, parce que quand je pense à la France, sans doute ce qui me blesse le plus, c'est cet éloignement que je constate aujourd'hui en Afrique. Sachons nous retrouver. Nous avons, pendant des siècles, travaillé et avancé ensemble. Eh bien, retrouvons-nous dans le respect, dans la dignité et dans une aventure qu'il nous faut maintenant inventer dans l'intérêt des uns et des autres.
Et comment serait votre relation avec la Tunisie ? Si demain vous êtes président de la France.
Ben vous savez, moi j'ai une affection très ancienne pour la Tunisie. En termes de civilisation, nous devons beaucoup à Carthage et à ces siècles qui ont été des siècles glorieux. Et j'ai beaucoup d'affection aussi par la connaissance que j'ai du peuple tunisien. Combien d'étudiants en France que j'ai côtoyés dans les universités, dans les grandes écoles, combien d'artistes, combien de talents que je constate à l'IACE. Les chefs d'entreprise sont aujourd'hui mus par un dynamisme, un appétit, un enthousiasme. J'ai pu voir au long de mon séjour la jeunesse tunisienne, les étudiants, les étudiantes. Il y a quelque chose qui se passe. Et cette aventure, plus que jamais, je sens que c'est une aventure partagée entre nous.
Et je disais, si vous étiez, et demain, si vous étiez un chef d'entreprise tunisien. Alors, je vous donne en plus, je vous donne le choix entre quatre réponses. Si vous étiez un dirigeant d'une entreprise tunisienne, quelle serait, selon vous, la priorité absolue ? L'ouverture, la prudence, l'innovation ou la résilience ?
Alors,
dans le micro.
L'ouverture, bien sûr, l'innovation également, et la résilience, c'est une figure imposée de la vie. Il faut apprendre quand les choses sont difficiles. Donc, oui, la prudence également. Donc vous voyez, c'est la combinaison de tout cela, mais plus que jamais, je mettrai en avant l'audace qui me paraît être la figure imposée du monde d'aujourd'hui.
Vous étiez ministre de l'Intérieur, vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous étiez Premier ministre et vous étiez surtout le plus jeune secrétaire général de l'Élysée. Donc c'est un endroit que vous connaissez très bien. Est-ce un endroit...
La jeunesse n'est pas toujours un privilège.
Mais aujourd'hui, est-ce un endroit que vous voulez retrouver dans d'autres fonctions, en l'occurrence celle de président ?
La bataille ne fait que commencer. Les Français ne sont pas encore dans le jeu électoral. Nous y rentrerons après les municipales. Mais je veux faire partie de ce combat qui se dessine pour 2027. Parce que ce qui va se jouer, c'est la question de savoir qui l'emportera, des forces identitaires ou des forces républicaines et démocratiques. Moi, je veux croire que la France ne se reniera pas, qu'elle avancera dans la fidélité à elle-même, l'esprit des Lumières, l'esprit de la Révolution, sans céder à la tentation de la contre-révolution, du conservatisme, du repli et du retour en arrière. Donc oui, je veux regarder vers l'avenir.
En tout cas, c'est presque la première fois, j'ai écouté attentivement, j'ai suivi pas mal de vos récentes interviews, c'est la réponse la plus proche d'un oui, je serai candidat aux prochaines présidentielles. En tout cas, on vous souhaite bon courage.
Il fait beau à Tunis.
C'est inspirant. Voilà.
Merci.
On va dire que c'est un scoop pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Dominique de Vipin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions qui sont très nombreuses. Je salue nos auditeurs qui, exceptionnellement, on a l'habitude d'interagir avec vous. On ne l'a pas fait, vous l'aurez compris, cette interview est enregistrée. D'ailleurs, je me suis privé de pas mal de questions d'actualité parce que ça va tellement vite que j'allais éviter de commenter telle ou telle déclaration en particulier parce qu'on est à J-3 à peu près de la diffusion. Comme ça, je suis dans la transparence. Voilà. Mais je pouvais quand même passer à côté de l'occasion d'avoir cette interview avec vous. Dominique de Vipin, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.
Merci. Bonne journée.
كان هذا حوار حصري إذن مع السيد دومينيك دو فيبان هوني أون مارج دو لا 39 إيديسيون تاع أيام المؤسسة من تنظيم معهد العربي الوسائي المؤسسة تحية لكل الفريق هوني أماني تقوى منال كل الزملاء في الاستوديو وسيم العربي حيكم وقدوا معنا مازال مواصلين في برنامجكم إكسبريسو ديما معكم في قلب الحدث.